Monseigneur de Kerimel, archevêque de Toulouse, qui est à l'initiative de cette belle journée.
Donc bonjour à tous. J'en ai salué quelques-uns. J'espère pouvoir croiser plus ou moins tout le monde. En tout cas, nous nous réjouissons. Je vois que vous arrivez avec plein d'enthousiasme. Et moi aussi, de vous voir plein d'enthousiasme, ça me donne plein d'enthousiasme. Donc, gloire à Dieu. Nous voici donc rassemblés, nombreux, en cette fête de Pentecôte, pour louer le Seigneur, pour invoquer sur nous, sur notre diocèse, sur l'Église universelle, sur le monde entier, particulièrement sur les confirmants, l'Esprit-Saint, pour qu'il transforme nos vies et tout l'univers. Au cours de cette journée, nous allons nous rencontrer les uns les autres et découvrir d'une manière nouvelle la beauté de notre Église diocésaine, de cette grande famille de Dieu en Haute-Garonne. L'Église de Toulouse est une vieille dame, née au IIIe siècle, qui a une riche histoire, qui a donné de nombreux saints, et ce n'est pas fini, et qui ne cesse d'enfanter de nouvelles générations. Aujourd'hui, il nous revient d'écrire une page de cette histoire dans un contexte qui est le nôtre aujourd'hui, un contexte fortement sécularisé, mais en même temps dans un contexte de quête de sens, et nous le savons en France en particulier, un afflux de demandes de baptême de la part d'adultes et d'adolescents. Et donc, ma question, et je vais essayer d'y répondre, c'est comment annoncer la bonne nouvelle dans ce monde sécularisé qui se passe apparemment très bien de Dieu ? Comment humaniser ce monde ? Car quand on oublie Dieu, eh bien, malheureusement, on voit qu'il y a une œuvre de déshumanisation qui s'opère. Et donc, comment annoncer la bonne nouvelle? Comment humaniser ce monde? Comment redonner toute leur place aux plus faibles, aux plus fragiles, aux embryons, aux nouveau-nés, aux vieillards, aux migrants? Comment redonner du sens à ce monde qui ne sait plus où il va? J'ai trouvé la réponse dans le prophète Zacharie, dans la Bible. Ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit seulement. Ni par la bravoure, ni par la force, mais mon esprit seulement. On pourrait tenter de cultiver un esprit de reconquête. On pourrait tenter d'agir en tant que chrétien à la manière du monde. Le Seigneur nous dit « ni par la bravoure, ni par la force, mais par mon esprit seulement ». La force appartient à Dieu, à nous la faiblesse. Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, a manifesté la puissance de Dieu dans sa faiblesse humaine. Reconnaître nos faiblesses n'est pas une honte, mais un regard lucide sur l'être humain qui est constitutivement vulnérable. Certes, le Seigneur attend de nous que nous soyons courageux, que nous soyons forts dans la foi. Et dans les 7 dons du Saint-Esprit, je n'oublie pas l'esprit de force. Il nous donne une force intérieure qui est le fruit de la lumière divine dont il nous éclaire, le fruit de la charité divine qu'il déploie en nous. L'Esprit-Saint nous fortifie dans la foi, l'espérance et la charité. Rien à voir avec la force selon ce monde. La force selon le monde impose, contraint, peut aller jusqu'à manipuler, exercer une emprise, réduire en esclavage. Bien sûr, le pouvoir politique peut être amené à utiliser la force et souvent doit l'utiliser pour faire respecter la loi, pour isoler ceux qui font le mal, pour maintenir l'ordre public, pour défendre le pays en cas d'agression, mais dans les limites du bien commun et dans le respect de la personne humaine et de la famille. Or, souvent, ces limites sont dépassées. Si nous regardons bien ce qui se passe dans le monde, nous voyons qu'il est mû par la logique de la loi du plus fort, au détriment du respect de l'autre. Cette logique n'est pas celle de Dieu. Dieu n'impose rien. Il nous a fait miséricorde. Il nous a libérés. Il nous a donné une loi de vie. Il nous a donné l'Esprit Saint qui nous rend libres face au mal. Il nous envoie porter la victoire du Christ dans le monde. Victoire de la lumière, de la vérité sur les ténèbres et le mensonge. Victoire de l'amour sur la haine, l'agression, la force selon le monde. J'aime bien rappeler que le Seigneur a envoyé ses disciples comme des agneaux au milieu des loups. Lui-même, vainqueur du mal et des ténèbres, est chanté au ciel comme l'agneau immolé et vainqueur, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jésus n'a pas fait acte de bravoure, Jésus n'est pas un héros, il a obéi humblement à la volonté de son Père, par amour pour son Père et pour nous. Durant son procès, il a manifesté la vérité et ses accusateurs n'ont pas pu le dominer, car personne ne peut dominer la vérité. Sur la croix, il a choisi de témoigner du plus grand amour et personne ne peut tuer l'amour. Jésus nous envoie en vainqueur avec ses propres armes, la vérité et la charité. Il nous envoie donc comme des pauvres. Et tout à l'heure, durant la messe, cet après-midi, nous allons entendre ou chanter la séquence de Pentecôte, cette belle prière du Veni Sancte Spiritus. Et nous allons dire, nous allons entendre, « Viens, Esprit Saint, Père des pauvres !» Si nous voulons l'Esprit Saint, il nous faut être pauvres, pauvres de cœur. Et l'Esprit Saint veut déployer sa puissance dans notre faiblesse. Car la mission qui nous est confiée n'est pas nôtre, elle est l'œuvre de Dieu, elle est l'œuvre de l'Esprit Saint. Le pape Saint Jean-Paul II disait dans une encyclique sur la mission que l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission. Et on trouve une belle illustration dans les Actes des Apôtres. Si on est attentif, vous vous souvenez de ce passage où Pierre est à Joppé et puis il y a quelqu'un qui... Pierre, en tout cas, est en train de prier et donc il a une vision, une extase avec cette fameuse nappe. Et la voix de Dieu lui dit de manger, or il y a des animaux impurs. Et Pierre dit d'abord, ah non Seigneur, jamais je n'ai mangé de choses impures. Bon. Et la voix lui dit, voilà, ce que Dieu déclare pur, ne le déclare pas impur. Bon. Et voilà que pendant ce temps, un centurion romain, un païen, a une vision, un ange qui l'invite à inviter Pierre, à faire venir Pierre, pour qu'il lui prêche la bonne nouvelle. Et Pierre, donc, quand il entend à la porte les gens venus le chercher, comprend qu'il doit se laisser conduire et oser aller dans une maison païenne. Un juif ne rentrait pas dans une maison païenne. C'était se rendre impur. Et donc Pierre dépasse c'est les principes, les préceptes qu'il a reçus, et ose aller chez ce centurion Corneille. Et là, au moment où il commence à prêcher, eh bien, il y a une effusion de l'Esprit Saint. Et Pierre donc se laisse conduire par l'Esprit Saint. C'est bien l'Esprit Saint qui mène la mission. Et on le voit encore dans les Actes des Apôtres, toujours. Donc, au chapitre 16, Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Et donc, voilà, l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission. L'Esprit Saint, c'est pour ça que pour nous, il nous faut l'accueillir et être assez pauvre pour qu'il déploie sa puissance dans notre pauvreté. L'Esprit Saint nous donne le désir d'évangéliser, mais il ne nous donne pas la recette ni les moyens. Il n'y a pas de recette pour évangéliser. Parce que l'évangélisation passe par nos pauvretés, par nos humbles gestes, par nos paroles maladroites. L'évangélisation passe par la rencontre, le risque de la rencontre. Elle n'est pas une leçon de catéchisme, elle ne cherche pas à convaincre. Ma pauvreté va à la rencontre d'une autre pauvreté. L'Esprit Saint rend humble, il rend libre et obéissant. Il nous désapproprie. La mission n'est pas notre œuvre. Il nous appauvrit intérieurement. Il agit à notre insu. Il nous fait poser des actes ou dire des paroles qui ne viennent pas de nous. Et donc, c'est ce que je voudrais donc que nous retenions ce matin, donc de cette expérience de notre propre pauvreté et de l'expérience de la puissance de l'Esprit Saint dans nos pauvretés. Et donc, si nous voulons évangéliser le monde, participer à sa transformation, il nous faut commencer par nous attacher au Christ et nous laisser transformer nous-mêmes par la puissance de l'Esprit. La première étape de la mission est la conversion des missionnaires, notre conversion. Et donc, que nous le voulions ou non, nous devons apprivoiser nos pauvretés, nous réconcilier avec nos pauvretés, arrêter de les cacher. La sainteté ne se forge pas à la force du poignet, elle est l'acceptation de nos pauvretés et un oui inconditionnel à Dieu. Et donc, voilà le travail que nous avons à faire, renoncer à nos points de vue, renoncer à tout et demander au Seigneur quelle est sa volonté. Enfin, la mission a aussi une dimension ecclésiale. Je ne mène pas la mission tout seul, jamais. Le Christ a envoyé ses disciples deux par deux. Et là, encore une fois, la mission n'est pas mon projet personnel, n'est pas mon affaire. Et donc, j'y vais en Église, où je fais discerner par l'Église mes idées, mes projets. J'ai le droit d'avoir des idées, bien sûr. Et c'est bien d'avoir des idées, des initiatives, mais je discerne en Église pour éviter d'en faire mon affaire personnelle. Et le fait d'être ensemble, eh bien, il y a des projets peut-être légitimes. La communauté, l'Église va me dire « non, pas pour l'instant ». C'est frustrant, ça me maintient dans l'humilité, ça me maintient dans la pauvreté. Parce que le gros danger qui nous guette, encore une fois, c'est de nous approprier la mission, de nous approprier et finalement de nous chercher nous-mêmes plus que de chercher la volonté de Dieu. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, donc il y a de l'évangélisation sur les réseaux sociaux et c'est une très bonne initiative, mais attention à regarder Jésus, à travailler vraiment pour Jésus et non pas pour le nombre de followers. Parce que c'est le gros, gros danger. Nous travaillons pour le Christ. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Et nous ne sommes pas là pour, faire des shows et nous centrer, finalement, centrer les gens sur nous-mêmes. Nous sommes là pour conduire au Christ. Et donc, Voilà le gros enjeu aussi de la dimension ecclésiale de la mission. Je termine donc en disant que voilà, le vrai disciple de Jésus est pauvre de cœur, conscient de ses limites, profondément vrai. Quand je suis arrivé à Grenoble pour prendre la charge du diocèse de Grenoble, je suis allé rencontrer les pères chartreux dans leur monastère. Et il ne faisait pas très chaud dans ce monastère. Et je demande d'ailleurs au jeune moine qui me faisait visiter, je dis, mais en hiver, vous n'avez pas trop froid? Oh non, on maintient 10 degrés dans la chapelle. Bon, je trouvais que c'était un peu juste. Mais... Et donc, je suis sorti de cette rencontre avec les pères chartreux en me disant, ce sont des pauvres, ils sont vrais. Ce sont des pauvres, ils sont vrais. Et c'est vraiment ce que nous devons travailler nous-mêmes, chacun d'entre nous. Accepter d'être des pauvres, être profondément vrai. Et donc, quitter notre propre idéal de sainteté, quitter l'image idéale que nous cherchons de nous-mêmes, quitter notre désir de perfection selon nos propres vues, et nous livrer au Christ et annoncer la bonne nouvelle. C'est simplement si nous sommes pauvres et si nous sommes vrais que nous pouvons être d'authentiques missionnaires. Alors, bonne journée à vous. Que l'Esprit Saint vienne nous transformer profondément, ce qui va faire, je n'en doute pas, tout au long de cette journée, et que nous puissions repartir renforcés dans l'unité, l'amour fraternel, et en même temps dans l'élan missionnaire.
Merci, Monseigneur de Kerimel, archevêque de Toulouse.